Sophie, il est 11h à Paris, 5h à Washington.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, Joe Biden réagit à Donald Trump et ses propos polémiques et racistes sur les migrants. En pleine campagne présidentielle face à la démocrate Kamala Harris, l'ancien président a à nouveau ciblé les Haïtiens. On reviendra dans le détail sur ses propos. Dans ce journal également, au retour de sa tournée asiatique, le pape François a pris la parole sur les accusations d'agression sexuelle visant l'abbé Pierre. Le Vatican était au courant, au moins après son décès, en 2007. Aux Comores, les réactions se multiplient après l'attaque au couteau dont a été victime le président. Il est légèrement blessé et les réactions s'enchaînent depuis cet événement. Vous l'entendrez. Et puis on s'intéressera au mystère du méga-séisme, un phénomène observé en septembre 2023 et qui a duré 9 jours au total. Explication en fin de journal. Aux États-Unis, les attaques de Donald Trump contre les migrants continuent en pleine campagne présidentielle. Hier, vendredi, le candidat républicain a accusé sa rivale démocrate, Kamala Harris, de vouloir transformer le pays en, je cite, « un camp de réfugiés ». Les enfants américains sont à la merci de criminels barbares, a également déclaré l'ex-président. Donald Trump a une nouvelle fois évoqué l'affirmation fallacieuse et raciste selon laquelle des Haïtiens voleraient des chiens et des chats pour les manger dans la ville de Springfield. Des propos qui n'ont pas manqué de faire réagir la Maison-Blanche. Le président Joe Biden dénonce ces déclarations de Donald Trump et lui demande de mettre un terme à ses propos incendiaires. Pour l'instant, le candidat républicain n'a pas répondu, mais il a à nouveau ciblé les Haïtiens en promettant d'expulser les illégaux vers le Venezuela. Correspondance aux États-Unis de David Thompson.
Dans les jardins de la Maison-Blanche, Joe Biden préside une cérémonie pour célébrer l'excellence noire. Le président en profite pour demander à Donald Trump d'arrêter ses attaques contre les migrants haïtiens. Cela doit cesser, dit Biden. Depuis son débat télévisé mardi face à Kamala Harris, Donald Trump ne cesse d'accuser des migrants haïtiens de la petite ville de Springfield en Ohio de kidnapper des chiens et des chats pour les manger. Ces propos démentis par les autorités locales ont provoqué des alertes à la bombe et des insultes racistes contre la mairie et une école. Menace balayée par Donald Trump, qui fait même dans la surenchère en conférence de presse à Los Angeles.
La vraie menace, c'est ce qui se passe à notre frontière, parce que des milliers de personnes sont tuées par des migrants qui entrent illégalement. On va faire de grandes expulsions de Springfield, Ohio, on va expulser tous ces gens au Venezuela.
Dans son programme de campagne, Donald Trump promet, s'il est élu, la plus grande expulsion de l'histoire des États-Unis. Près de 12 millions de personnes sont concernées. David Thompson, Miami RFI.
Les États-Unis ont par ailleurs fait des déclarations concernant le Moyen-Orient. L'armée américaine a annoncé aujourd'hui avoir tué fin août 4 dirigeants de l'État islamique en Irak. Cette opération a permis d'amoindrir les capacités de l'EI à organiser des opérations, a précisé le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient, qui ajoute que 14 membres de l'EI au total avaient été tués dans ce raid mené le 29 août dernier. Et sur fond de guerre en Ukraine, le président américain Joe Biden va rencontrer ce mois-ci le président ukrainien, si l'on en croit les déclarations de Volodymyr Zelensky. Alors que son pays est confronté à une multiplication d'attaques aériennes, le président ukrainien a accusé hier ses alliés d'avoir peur, d'évoquer la possibilité d'abattre eux-mêmes des drones et des missiles russes. Des déclarations qui sont intervenues alors que des discussions à Washington étaient également en cours ce vendredi. Joe Biden a reçu le premier ministre britannique pour discuter de leur désaccord sur un sujet en particulier, à savoir autoriser Kiev à utiliser des missiles livrés par les Alliés pour toucher le territoire russe. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a rencontré hier en Corée du Nord le chef de la sécurité russe Sergueï Shoigu. Il s'est engagé à renforcer ses relations avec Moscou. Déclaration qui intervient après la signature du traité de défense mutuelle des deux alliés en juin dernier. C'était lors d'une visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord également. De leur côté, les États-Unis et la Corée du Sud ont accusé Pyongyang d'avoir fourni des munitions et des missiles à la Russie pour soutenir sa guerre en Ukraine. Accusation qu'a rejetée Pyongyang. Il vient de terminer sa tournée dans plusieurs pays d'Asie et a finalement fait quelques déclarations sur l'abbé Pierre. Le pape François a admis que le Vatican était au courant des agressions sexuelles commises par le fondateur d'Emmaüs, au moins après son décès en 2007. Lors de sa conférence de presse dans l'avion du retour de son voyage asiatique, le pape François a aussi rappelé la nécessité de poursuivre le combat contre les abus. Les précisions de notre correspondant au Vatican, Éric Senanque.
L'abus est à mon avis une chose démoniaque, car tout type d'abus détruit la dignité de la personne, a lancé le pape, qui s'est publiquement exprimé pour la première fois sur le fondateur d'Emmaüs.
Vous avez parlé de l'abbé Pierre. Malgré tout le bien qu'il a pu faire, vous pouvez aussi voir que cette personne est un terrible pécheur. C'est notre condition humaine.
François a expliqué aussi qu'il n'y avait pas de tabou concernant les agressions sexuelles. Nous devons parler clairement de ces choses et non les cacher, a-t-il rappelé, admettant que le Vatican était au courant des agressions concernant l'abbé.
Que savait le Vatican de l'abbé Pierre ? Je ne sais pas quand le Vatican l'a appris. Je ne sais pas parce que je n'étais pas encore pape et ça ne m'est jamais venu à l'esprit d'effectuer une recherche sur ce cas. Le Vatican savait après sa mort, c'est sûr, mais avant, je ne sais pas.
Si les archives vaticanes restent muettes, celles de l'Église de France s'ouvrent sur les méfaits de l'abbé Pierre. On y apprend que dès la fin des années 50, le secrétaire de l'épiscopat français, Mgr Jean Villot, connaissait les agressions. Celui-ci deviendra en 1969 le secrétaire d'État du pape Paul VI. Éric Sénanc, Rome. RFI.
Le bras de fer entre le Premier ministre australien et Elon Musk, le patron de X, continue. Les réseaux sociaux ont une responsabilité sociale à assumer, a déclaré Anthony Albanese. Une réplique visant Elon Musk qui avait qualifié de fasciste son gouvernement pour son projet de sanctionner les plateformes ne luttant pas contre la désinformation. Le projet de loi prévoit notamment des amendes pouvant aller jusqu'à 5% du chiffre d'affaires annuel des géants du numérique en cas de non-respect de leurs obligations en la matière. Dans l'actualité africaine, on va prendre la direction des Comores. Les réactions se multiplient après l'attaque au couteau dont a été victime le président Azali Assoumani. C'était hier après-midi lors de funérailles à Salimani, non loin de Moroni. Alors que son état de santé est rassurant, plusieurs personnalités politiques, tant de l'opposition que du pouvoir, ont pris la parole pour condamner cet acte. Abdallah Menzabada.
Daoudou Abdallah Mohamed, leader du parti Orange et ex-candidat à la présidentielle de janvier dernier, a dénoncé cet acte tout en soulignant qu'il est le résultat des tensions politiques actuelles. Il appelle à résoudre les désaccords pacifiquement. Maître Ibrahim Alim Zimba, président du Paris, parti qui se déclare d'opposition, a condamné l'agression, qualifiant l'attaque de lâche et contraire aux valeurs de tolérance et de paix. Il exhorte les forces politiques à rejeter la violence sous toutes ses formes. De son côté, Maître Saïd Larifou, leader du parti Ridja, voit dans cette attaque l'expression d'une violence anormalement élevée aux Comores, appelant à une prise de conscience collective pour restaurer la paix sociale. Le parti au pouvoir, la CRC, a également exprimé son soutien total au président Azali, tout en saluant son rétablissement rapide. Selon une source proche du pouvoir, le président de la République est retourné à l'hôpital hier soir après un premier passage dans l'après-midi. Un conseil interministériel extraordinaire et une conférence de presse sont prévues ce matin. L'agresseur, un jeune gendarme d'une vingtaine d'années, a été arrêté dans les instants qui ont suivi l'attaque contre le chef de l'État, Abdelhamzem Baba Moroni, RFI.
On va à présent s'intéresser à un mystère, celui du méga-séisme. Ce dernier a interloqué les sismologues du monde entier pendant presque un an. Le séisme en question date de septembre 2023 et a été détecté par les instruments tout autour de la planète. Fait intrigant, il a duré 9 jours, un événement inédit, sans explication, qui en a finalement trouvé une. C'est l'effondrement d'un iceberg au Groenland qui en est à l'origine. On en parle avec Simon Rosé.
C'était du jamais vu. Le 16 septembre 2023, les sismomètres installés un peu partout sur la planète se sont mis à vibrer et n'ont cessé que 9 jours plus tard. Un signal long, des fréquences différentes de celles d'un tremblement de terre classique. Le mystère restait entier. C'est une équipe internationale de 68 scientifiques qui a eu le fin mot de l'histoire. La source se trouve au Groenland. Un glissement de terrain, l'effondrement d'un sommet de 1200 mètres de haut dans un fjord qui a causé cette secousse qui a fait vibrer la terre entière. 25 millions de mètres cubes de roches qui ont fini leur course dans l'eau. L'impact a été tel qu'il a créé une vague de 200 mètres de haut. Elle s'est rapidement dégonflée à mesure qu'elle rebondissait contre les parois du fjord pendant une dizaine de jours. C'est ce qui a créé ces ondes sismiques. À l'origine de ce cataclysme, un glacier, c'est lui qui retenait toute cette roche, mais rendu plus fragile en raison du réchauffement climatique, il a fini par lâcher, ce qui fait craindre aux auteurs de l'étude que d'autres glissements de terrain de cette ampleur se produisent ailleurs dans le monde.
Simon Rosé, le Brésil lutte toujours contre des dizaines de milliers d'incendies. Le pays fait face à la pire sécheresse jamais enregistrée dans le pays. Des villes majeures comme Sao Paulo et Rio de Janeiro sont menacées. Les incendies se sont faits plus nombreux au cours des 12 premiers jours de septembre par rapport à l'an dernier, à la même date. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi.